Donc, frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche que nous venons d'entendre, un docteur de la loi pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, dit-on. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évangile le dimanche dernier. Bon. Donc déjà, dans les passages précédents, Jésus est interrogé. On veut le prendre en défaut. Un dimanche dernier, souvenez-vous donc, c'était les Hérodiens et les pharisiens qui ont tenté de le compromettre sur le terrain politique avec la question sur l'impôt. Doit-on payer l'impôt à César? Puis auparavant, il y avait déjà eu avec les Sadducéens un piège qui lui était tendu sur la question de la résurrection. Donc des questions qui ont pour objet de lui tendre un piège, non pas d'avoir une réponse. Bon, j'espère que nous ne sommes pas de ceux qui posent des questions, mais qui en réalité veulent surtout pas les réponses. Donc ici, la question est plus subtile. Il s'agit de celle du plus grand commandement. Vous savez, à l'époque de Jésus, c'était une question classique. Dans la loi, il y avait plus de 600 commandements et préceptes. Donc on voulait les hiérarchiser en cas de conflit entre les commandements. Jésus répond non pas en faisant une hiérarchie, mais en disant qu'il y en a deux qui se tiennent ensemble et qui sont la source de tous les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà le grand commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils sont semblables, mais l'un ne remplace pas l'autre. L'un est le lieu de vérification de l'autre. L'un est la source de l'autre. Rappelons-nous ce que dit saint Jean dans sa lettre. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. C'est clair. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, quand on entend ce genre de passage, souvent on pense aux autres, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'en connais, ils sont comme ça. » La question, c'est nous. Hein. Occupez-vous pas de la conversion des autres, occupez-vous de la vôtre. Enfin, de la mienne, si vous voulez. Donc, permettez-moi de vous rapporter les propos de sainte Thérèse d'Avila, que j'ai trouvé chez sainte Thérèse d'Avila, qui s'adresse à ses sœurs. « Que pensez-vous, mes filles ?» dit-elle. « La volonté de Dieu, de notre Seigneur, c'est que nous soyons parfaites, de sorte que nous puissions devenir une même chose avec lui et avec le Père, comme lui-même nous en fait la demande. À nous, le Seigneur ne demande que deux choses. » L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le moyen le plus sûr, selon moi, de savoir si nous observons ces deux préceptes, c'est de savoir quelle est notre perfection relativement au prochain. Aimons-nous Dieu? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais ce qui est de connaître si nous aimons le prochain, nous le pouvons. Soyez certaines. Autant vous aurez fait des progrès dans l'amour du prochain, autant vous aurez fait dans l'amour de Dieu. Aimer Dieu totalement et le prochain comme soi-même contient tout ce que Dieu attend de nous. Celui qui garde ses deux commandements et les vit accomplit tous les autres. Dans le passage de l'Évangile rejoint, me semble-t-il, la mission, le cœur de la mission de l'hospitalité. J'ai trouvé que ce texte était quand même providentiel. Parce que la mission de l'hospitalité ne se réduit pas à servir les malades à Lourdes une semaine par an. Ou alors j'ai rien compris. Mais en servant les malades une semaine par an ou plus, on le fait pour se laisser transformer le cœur. Répondre à l'amour de Dieu et pour nous laisser rejoindre par l'amour de Dieu et pour aimer nos frères et sœurs toute notre vie. En réalité, c'est une semaine ou 15 jours pour donner notre vie. À la réponse de Jésus au docteur de la loi nous est si familière après 2000 ans de répétition que nous risquons de ne plus mesurer la portée de ce double commandement. Est-il possible d'aimer Dieu alors qu'on ne le voit pas? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Comment aimer notre prochain? Jusqu'où? Alors, permettez-moi quelques considérations ou rappels sur le sujet. Tout d'abord, rappelons-nous ce que dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, vous savez, le fameux hymne à la charité, ce qu'il dit à propos de la charité et de l'amour. « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, endure tout. L'amour ne passera jamais. Alors comment arriver à un tel amour? Vous savez, quand je compare cette liste à ma propre vie, à ma manière de me comporter, je constate que je ne suis pas encore au bout du chemin, qu'il y a encore un peu de marge. Une autre considération, aimer, ce n'est pas seulement des sentiments, mais des actes. On redit souvent l'amour à l'affectivité, aux sentiments, aux émotions. Un tout, tant dans notre relation aux autres que dans notre relation à Dieu. L'amour n'est pas seulement des sentiments. Les sentiments vont et viennent. Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, mais la maturité de l'amour implique toute la potentialité de l'homme. Il inclut l'homme dans son intégralité. Aimer requiert aussi la volonté et l'intelligence. On choisit d'aimer et on apprend à aimer. Je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans des sentiments, mais dans les œuvres, dit sainte Thérèse de Lisieux. On peut avoir un sentiment pour quelqu'un et ressentir une émotion à son égard et ne pas l'aimer et ne rechercher que nous-mêmes. On peut avoir peu de sympathie pour quelqu'un, je veux dire ça comme ça, et pourtant l'aimer. Car aimer, c'est poser des actes de bienveillance, d'écoute, de respect, d'attention, de service à l'égard de l'autre. Aimer suppose toujours une forme d'oubli de nous-mêmes, le renoncement à soi-même pour le bien de l'autre. Encore, Jésus, vous savez, va plus loin. Il nous invite à aimer jusqu'au pardon, jusqu'à l'amour pour les ennemis. L'amour devient en lui miséricorde. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer de retour. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Enfin, il n'y a pas d'amour sans vérité. On a tendance, vous savez, aujourd'hui à réduire la vérité à la sincérité. Vous savez, on peut être sincère, c'est un minimum. On peut être sincère et dans le mensonge total. Amour et vérité se rencontrent, dit l'Écriture. L'amour sans la vérité, c'est un mensonge. Ceci étant dit, la vérité sans l'amour, c'est diabolique. L'homme vit de la vérité, ça c'est un propos de Benoît XVI. L'homme vit de la vérité et du fait d'être aimé par la vérité. Alors comment arriver à un tel amour? Un jour, avec la maturité, on découvre tous que nous n'arrivons pas à aimer autant que nous voudrions aimer. Nous voyons que nous sommes démesurément attachés à nous-mêmes. Nous faisons l'expérience que l'amour des ennemis est impossible et que pardonner est extrêmement difficile. Alors que faire? Nous savons que le seul qui a aimé Dieu et aimé son prochain de manière parfaite, c'est Jésus. Il a accompli le double commandement et il l'a accompli sur la croix. L'amour jusqu'à l'extrême. Il est ainsi pour nous un modèle de l'amour, pour que nous apprenions à son école à aimer. Mais plus encore, il est la source même de l'amour, en vivant en communion avec lui, en nous approchant de lui, qui est l'amour et la miséricorde. Dieu veut que nous devenions capables d'aimer nous-mêmes, en lui, par lui, et que nos cœurs peuvent en être transformés dans la proximité du Christ, qu'il transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors aimer Dieu et aimer son prochain sont en réalité indissociables. Aimer Dieu que l'on ne voit pas, c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, Dieu n'est pas pour nous totalement invisible. Dieu nous a aimés le premier, et cet amour de Dieu s'est manifesté à nous. Il s'est rendu visible, car il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Dieu s'est rendu visible en Jésus. Nous pouvons le voir, nous pouvons voir le Père. Le premier nous a aimés et continue à nous aimer le premier. C'est pourquoi nous pouvons nous aussi répondre par l'amour. Dieu ne nous impose pas un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime. Il nous fait voir son amour et nous pouvons l'expérimenter. Et à partir de cet amour premier de Dieu, en réponse à cet amour, l'amour peut aussi jaillir en nous, au fond de notre cœur. Pour aimer, il faut en premier lieu se laisser aimer. Pour pardonner, il faut d'abord avoir accueilli le pardon dans notre propre vie. Et lorsqu'on a compris cela, et que l'on en est saisi, l'amour du prochain devient possible. Il consiste à aimer en Dieu et avec Dieu. On apprend alors à regarder l'autre, non plus seulement avec nos yeux, avec nos sentiments, mais selon la perspective de Jésus, au-delà de l'apparence. Il y a un lien nécessaire entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir dans l'autre que l'autre. Je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Mais si par contre dans ma vie, je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant simplement être pieux ou accomplir mon devoir religieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Alors cette relation est correcte, mais sans amour. Seule notre disponibilité à aller à la rencontre de l'autre nous rend sensibles à Dieu. Car Dieu en Jésus, vous savez, s'est identifié aux plus pauvres. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim et vous m'avez nourri. Alors l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. C'est un unique commandement. Tous deux cependant vivent de l'amour prévenant de Dieu pour nous, qui nous a aimés le premier. Alors en cette Eucharistie, maintenant, demandons un accroissement de la charité. dans nos cœurs. Renonçons à tout faux semblant, toute mondanité, laissons-nous nous-mêmes aimer par lui et demandons avec détermination, avec confiance, d'être brûlés par la charité. Je crois que si on fait cette prière, vous savez, si on demande au Seigneur la charité, il ne peut pas nous la refuser. À condition que on se laisse déranger un tout petit peu.